Alors, on est dans Apocalypse chapitre 12. Oui, inquiétez-vous pas. Je ne vais pas me répéter. Je vous engage à ne pas me répéter. Alors, ceux qui ont manqué la première partie, évidemment, vous observez bien, il y a deux semaines, on a touché la première partie du chapitre 12. Et en le préparant, je suis arrivé au milieu de la semaine puis j'ai réalisé, je ne peux pas faire ça, là, essayer de tout comprimer ça en un sermon. Il y avait trop des vérités importantes. Et c'est avec ça qu'on va commencer ce matin. Juste récapituler ce qu'on a vu il y a deux semaines. Vous pouvez aller sur le site de l'Église et cliquer et facilement aller trouver le sermon il y a deux semaines. Vous pouvez aussi vous abonner avec Buzzsprout pour recevoir aussi automatiquement avec l'application les prédications à mesure qu'ils sortent chaque semaine. OK? Alors, je vous invite, je vais avancer ma diapo. On l'a regardé donc... il y a deux semaines, la guerre de Satan pour séduire la terre. On a regardé ce chapitre 12 jusqu'au verset 10. Et cette semaine, on va regarder à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Et je l'ai intitulé différemment la deuxième partie, « Trouver la joie ». Et « Trouver la joie » parce qu'il y a un commandement, un impératif à la joie au milieu de ce semblant de chaos qu'on va lire dans Apocalypse, de cette guerre avec Satan, d'une attaque qui s'intensifie, il y a au milieu de tout ça une invitation à la joie. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cette joie? Qu'est-ce qui peut nous donner la joie au milieu des difficultés? Et c'est ce qu'on va regarder, des vérités vraiment importantes pour notre foi chrétienne, à la base de notre persévérance, de la solidité de nos pieds sur le rocher qui est Christ, et de surmonter les moments difficiles. Donc, la semaine dernière, on a vu cette image de la femme qui représente évidemment Israël, duquel vient évidemment la descendance jusqu'à Christ, le Messie, et la guerre acharnée que Satan a contre Christ depuis sa naissance et finalement qui a abouti par la victoire de Christ, par la résurrection à la croix, et que dans le temps de la tribulation, il va être davantage sur terre, dans une implication intense sur terre de persécution et qui va continuer et qui nous est décrit ici dans cette guerre spirituelle qui se passe sur terre et au ciel même avec l'archange Michael. On a tout lu ça et vous pouvez le regarder. Et une première partie qui était de juste comprendre ce qu'il y avait là, c'était plus cérébral, on va dire, plus informatif de comprendre ce défi, cette guerre. Et on aboutit au verset 10, où tout à coup il y avait cette invitation. Et j'ai entendu une grande voix du ciel qui disait « Maintenant est venu le salut ». Il y a tout à coup une voix de l'Évangile qui est annoncée, une grande voix, une méga voix, un mégaphone comme on n'a jamais vu qui vient nous annoncer une bonne nouvelle pour se réjouir en plein milieu de ce chapitre. Et on a lu juste ce premier verset-là avant de lire le verset 11 et 12 de ce matin qui nous donne de quoi célébrer. Quoi? Bien, il est venu notre salut, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car l'accusateur de nos frères a été jeté dehors. Celui qui l'accuse devant notre Dieu nuit et jour. Celui qui fait du overtime sans arrêt. Celui qui est paniqué, ne peut pas avoir de repos parce qu'il est accro à son travail, celui de tenter sans arrêt de bousiller les plans de Dieu. C'est son mandat. Il est rebelle contre Dieu, il veut tout faire et il est l'accusateur. Et on l'a médité dans la deuxième partie de notre étude il y a deux semaines sur cette notion d'être accusé par l'ennemi. Pourquoi il nous accuse, comment il nous accuse et quel réconfort qu'on a dans les Écritures de savoir que Christ a brisé le pouvoir de l'accusateur. Et comment Christ ne nous accuse pas, lui. Et quelles sont nos ressources devant les accusations du diable, le fait d'avoir un intercesseur en notre faveur et d'avoir un avocat. Et tout à coup, devant l'accusation, j'ai plus besoin de me défendre. C'est pas merveilleux, ça? Nous, on se défend tout le temps. Et là, on a médité sur cette question-là d'être intercédé en notre faveur par le Christ, d'être défendu par le Christ continuellement. Alors, de réaliser que l'œuvre de rédemption de Christ c'est pas terminé à la croix, elle est complète, mais lui continue à travailler en notre faveur et d'appliquer dans les cieux ce salut, ce pardon continuel devant le Père. Dis non, je sais que Satan accuse, mais j'ai déjà tout lavé ça, Seigneur. C'est déjà tout réglé par mon sacrifice. Continuellement, en train d'appliquer à nos vies, devant les moments où on est découragé de nos échecs, qu'on a encore fait ce péché-là, qu'on prie le Seigneur, qu'on demande pardon pour, puis qu'on a encore tombé dedans. Des fois, c'est un péché que les autres savent. Des fois, c'est un péché secret que nous, on sait. et que Satan, lui, nous accuse, il veut nous traîner la face dans la boîte, puis nous garder sales, puis découragés, puis contrés là, pour ne pas se relever, et que Dieu, lui, a toujours juste la main tendue, puis il veut nous relever, lui, continuellement, disponible, désireux de nous relever, de ne pas nous laisser la face dans notre caca, puis de nous nettoyer, de nous laver et de nous rappeler, « Hey, toi, je t'ai revêtu d'un vêtement blanc. Arrête de te laisser intimider par l'ennemi, accuser, culpabiliser. J'ai tout réglé ça. Relève-toi. T'es en blanc, tout lavé. Une robe que chaque croyant reçoit de pardon. C'est fini la face d'emboîte. C'est fini d'être humilié. C'est fini d'être rongé par la culpabilité puis l'anxiété de mes échecs. Quand Christ a lavé mes péchés. » Et donc, on s'est arrêté juste à méditer là-dessus. Et là, on va continuer au verset 11 et 12 ce matin et compléter notre chapitre avec des vérités tout aussi percutantes et complémentaires pour vivre dans la victoire. Et vous allez voir ce matin, peut-être vous dites, « Ouais, mais Joël, moi, je m'attendais à un beau sermon là, pour la fête des pères, puis vous dire comment c'est beau, c'est merveilleux, les papas, puis et tout ça. » Je suis désolé, c'est pas ça le matin. Parce qu'à la fin de la journée, vous savez ce que les papas ont besoin, comme les mamans? C'est les paroles de Dieu pour vivre dans la victoire et pas se décourager. Et ce matin, je veux juste qu'on s'encourage avec les vérités de l'Évangile pour vivre victorieux, parce que la victoire, elle est déjà là, accessible et complète. Il nous en reste à y croire, la saisir et la vivre avec l'aide de Dieu. Et vous allez voir ce matin des clins d'œil à la paternité et à la paternité sur nos vies qui fait toute la différence. Vous allez voir à travers notre lecture ce matin également des vérités essentielles à ce niveau-là. Lisons le verset 11 et 12, puis on va prier le Seigneur de bénir notre temps ensemble. OK? Versets 11 et 12. « Mais eux, ils l'ont vaincu. » Alors, rappelez-vous, je relis le verset 10, et j'ai entendu une grande voix qui, dans le ciel, disait, « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ, donc de son Messie, car il a été précipité, donc jeté dehors, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Mais eux, en parlant de nos frères, ceux qui sont accusés, eux, ils l'ont vaincu. Oh, tu as toute notre attention. Comment ils l'ont vaincu? On se pose la question. Comment ils l'ont vaincu? Par le sang de l'agneau. Ah, OK. C'est pas parce qu'ils étaient bâtis. Parce que nous, les hommes, on aime ça, conquérir par la force. Montrer qu'on a des biceps, hein? Oh, chérie, de moller dans le pot. Oh, au moins, toi, on va te dévisser ça, là, tiens, hein? Non. La victoire n'a aucun lien ici avec la force masculine, la force humaine, nos qualités. Non. Vaincu par le sang de l'agneau, par le sang d'une bête vulnérable, faible, méprisée, facilement attaquable, qui a besoin d'un protecteur, qui est le Père Céleste. L'agneau, le sang de l'agneau. Et par la parole dont il, au pluriel ici, le il, la troisième personne, on parle encore de nos frères, qu'ils ont rendu témoignage, deuxième chose. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi soyez dans la joie. Voici les cieux et vous qui avez votre demeure, qui vous y avez votre demeure. Donc ceux qui demeurent au ciel, et je vous rappelle ici quelques chapitres auparavant qu'on parle de ces frères, de ces martyrs qui demeure au ciel. Donc, c'est les croyants morts qui ont honoré le Seigneur jusqu'au bout. Et là, tout à coup, il y a un « soyez joyeux », mais là, « malheureux à vous, terre et la mer ». Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous, parce qu'il a été jeté du ciel, donc il est descendu sur terre. Et là, la terre est pognée avec le diable déchaîné. Pourquoi? Malheur à vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, pris d'une grande fureur, littéralement, méga, sachant que peu de temps lui reste. Et là, c'est lui qui a de l'anxiété et qui est en colère. et qui est paniqué, puis qu'il faut qu'il fasse tout ce qu'il doit faire pour essayer de monter la rébellion et de séduire les êtres humains. Prions le Seigneur. Seigneur, on vient de lire ta parole, il y a des vérités ici essentielles à notre foi, et chacun d'entre nous ici se tient dans un siège différent, avec un besoin différent ce matin devant ce message de ta parole. Parle-nous selon notre besoin ce matin. Seul le Père céleste peut faire une telle chose, connaissant chacun de ses enfants, chacun de ses petites filles, chacun de ses petits garçons, et ce qu'il a besoin d'entendre ce matin pour marcher un pas de plus, une journée de plus, une semaine de plus, à ta suite. Comble notre besoin, Seigneur, comme seul Papa céleste peut le faire. On te le demande ce matin. Parle à nos cœurs et que ta parole puisse nous percuter, Seigneur, comme seul toi sais le faire parfaitement. On compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi. Et on te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Ce qui nous rend joyeux, le croyant, même dans les difficultés. Un chant joyeux. Et on ne peut pas s'empêcher de rester attentif devant une invitation à la joie au milieu de Satan qui est jeté sur terre. Ça attire notre attention. Qu'est-ce qui peut nous rendre joyeux? Et c'est pour ça que je me suis arrêté sur cette source de victoire au verset 11. C'est un texte vraiment important, ce qu'on vient de lire, parce qu'il nous donne ici des essentiels pour les saints, les croyants de toutes les époques, des éléments essentiels pour surmonter les intentions du mal, alors qu'il tente de nous séduire. Ce qu'il veut, l'ennemi, c'est de nous neutraliser. Il ne peut pas enlever notre salut. Il ne peut pas enlever le fait qu'on est sur le testament du Seigneur. Il ne peut pas enlever l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il ne peut pas enlever notre titre de fils et de fille héritier. Mais il veut nous neutraliser, nous garder tranquilles, nous paralyser, nous empêcher d'avoir un impact dans cette société. Il veut nous limiter et nous immobiliser avec le poison de la culpabilité émotionnelle, entre autres. Combien l'ont vécu dans le passé, d'être figé, pris dans la culpabilité émotionnelle et incapable d'avancer à cause de ça. Et je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser ce matin. Certains sont pris avec ça encore aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire que ces versets nous disent qu'on n'est pas obligé de rester là. On n'est pas obligé de rester là. Il y a une victoire qui a été acquise. Il y a une victoire qui nous est disponible. Et ici, il y a trois éléments, et je dirais en quelque sorte aussi trois étapes, pour la victoire contre cette accusation constante de l'ennemi à notre égard. Et j'ai mis une citation qui me semblait complète, bien résumée, par un auteur qui a écrit il y a 60 ans, Dr. Charles Ryrie. Ah non, ce n'est pas cette diapo-là, c'est la prochaine. M. Ryrie a fait cette déclaration dans un vieux livre que M. Wesley Peach, professeur à l'école biblique de Bethel, a traduit il y a 3 ans. Et j'apprécie beaucoup ce qu'il résume ici. Et on va s'y attarder ensemble. Il y a 3 éléments dans la formule de la victoire au verset 11. La première, la base qui est le sang de l'agneau. Le sang est la preuve de la mort. Ainsi, la mort de Christ est la base de toute victoire contre Satan. Et c'est vraiment important ici pour nous de se rappeler que dans l'Apocalypse, le sang de l'agneau, le symbole du sang, le prix du sang et la puissance du sang est souligné dans le livre de l'Apocalypse plus que tout autre livre du Nouveau Testament. On en a parlé, j'ai déjà parlé de ça, mais je sais que c'est loin. On retourne au mois de novembre lorsqu'on a parlé du sang et toute la place qu'il avait dans le livre de l'Apocalypse. D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est le plus sanglant des livres, mais ça donnerait une impression contraire du mot sanglant. Nous, sanglant veut dire guerre, mais de l'autre côté, ce n'est pas autant la guerre que le sang rédempteur de Christ qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'il peut nous racheter de notre situation perdue. Et donc, je m'y attarde et j'aimerais vous rappeler un verset ici important. Et peut-être vous pouvez tourner avec moi et garder votre petit doigt dans la page où ce que vous êtes et d'aller au chapitre 7. Verset 14, je vous relis une vérité importante, une scène céleste qui nous rappelle ici les saints dans les cieux, leur position, et une vérité qui était essentielle lorsqu'on a regardé le chapitre 7 et qu'on a vu qu'à travers la tribulation, ce que Dieu pourchassait le plus, c'était le salut des âmes. Et on voit au chapitre 7, verset 14, ces paroles. en parlant de ceux qui sont rendus au ciel, qui louent Dieu, il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie, dans quoi? Dans le sang de l'agneau. Dans le sang de cette petite bête fragile, méprisable, vulnérable, qu'on méprise, qu'on voit comme faible, pas intimidante, parce que Christ prend l'apparence de faiblesse. Et pourtant, derrière l'agneau, il y a un autre animal qui se cache. C'est le lion. Ne l'oubliez jamais. Derrière l'apparence de faiblesse, il y a le lion. Et voilà son âme cachée. L'apparence humaine regarde juste l'agneau méprisable. La réalité, c'est que c'est un lion. Et c'est le roi, les amis. C'est le roi. Il est puissant, il est vainqueur. Et donc, cette image est reprise ici pour parler de ce sang qui lave ses vêtements. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône. Ils sont capables de se tenir là, debout devant le trône, à cause de ce que le lion a fait par le sang de cette apparence de petite bête. Et il continue devant Dieu. Et qui le servent, regardez bien maintenant. Ils le servent comment? Nuit et jour dans son temple. Alors que on aura un corps parfait, qu'on sera en sa présence, plus pris avec les contraintes physiques que nous avons, alors que le diable, lui, panique, et nuit et jour, il veut nous accuser, nous nous servirons, nuit et jour, Papa Céleste, le Créateur, le Rédempteur. À cause de quoi? À cause du sang. Et donc, c'est un verset important, à côté du sang ici, il faut écrire chapitre 7, verset 14, pour apprécier ici l'importance de cette victoire, parce qu'on parle ici de pardon. Okay? Deuxièmement, on lit ici aussi ensuite. Deuxième, l'activité qui vainque Satan est le témoignage ou la prise de parole en cours, même si cela mène à la mort. Il est en train de dire que ceux qui ont rendu témoignage, et le mot, c'est un mot favori de Jean. Jean parle de rendre témoignage, d'être un témoin, les témoins, témoigner. Il utilise ce mot plus que n'importe qui d'autre dans le Nouveau Testament. Jean, l'Évangile de Jean, il parle toujours du témoignage de Jésus. Dans l'Épître de Jean, il parle de l'importance de rendre témoignage et dans le livre de l'Apocalypse également. Et de ce mot-là, témoignage, je vous l'ai déjà mentionné, je le rappelle, vient notre mot martyr. Parce qu'une fois qu'on rend témoignage de Christ, effectivement, certains sont devenus dans notre langue à nous des martyrs. Et l'emprise de l'accusateur est brisée par le témoignage des croyants devant les autorités avant de mourir et de trouver que leur vie n'est pas aussi importante que de parler et de rester fidèle à Christ jusqu'au bout. Rendre témoignage. Témoigner de ma foi, témoigner de la parole de Dieu, témoigner de Christ lui-même, brise et donne la victoire contre les accusations de l'ennemi. C'est ce qu'il nous dit ici. Une deuxième vérité essentielle, et je vous rappelle ici, et vous pouvez l'écrire à côté de cette vérité-là, le chapitre 6, verset 9. Chapitre 6, verset 9, je vous rappelle ici ce qu'on lisait lorsqu'il y avait des jugements sur terre. Il y a eu un cinquième sceau et on dit, « Je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Ils avaient été témoins et ils mettent le verbe et le mot ici, marturia, martureo, pour dire qu'ils ont brisé l'emprise et donné la victoire par leur prise de position par la grâce de Dieu. À chaque fois qu'on applique le sang de Christ à notre vie, on dit non, et qu'on se rappelle qu'on est victorieux à cause du sang, on est en train de vivre dans la victoire. À chaque fois qu'on rend témoignage et qu'on n'est pas en train de se défendre nous, mais qu'on parle de Christ et qu'on pointe vers lui plutôt que pointer vers nous, et qu'on pointe vers la parole de Dieu, on est en train de briser les liens du mal. Vous comprenez? Mais il peut y avoir un prix. Et voilà son troisième point. La troisième vérité. L'attitude. Donc, il y a la base qui est le sang. Il y a l'activité de Satan qui est vaincue par le témoignage, donc l'activité de ses, des disciples de Christ. Et là, il y a l'attitude impliquée dans la victoire est un sacrifice total de soi-même au point de ne pas craindre la mort. Toutes les persécutions, tortures et martyrs inexplicables des saints de tout âge sont rendues compréhensibles par ce verset. La défaite apparente, temporaire, est la victoire ultime sur l'ennemi de nos âmes. Et c'est pour ça qu'on doit le saisir, parce qu'à l'apparence, ça ne paraît pas. Tout comme à l'apparence, l'animal qu'est l'agneau semble faible. Et pourtant, il est victorieux et c'est bien le lion qui se cache derrière. Ne nous laissons pas intimider par l'apparence de faiblesse, par l'apparence de temporaire de ne pas avoir la victoire, que lui semble avoir l'avantage. Ne nous laissons pas berner et décourager et intimider par l'impression que les gens sont durs et n'écoutent pas. On n'est pas responsable de ça. Ça ne fait pas partie de notre mandat de changer le cœur. Lui, il s'occupe de ça. C'est celui qui peut faire le miracle d'amener un cœur à être humilié et se courber devant le Créateur. Nous, on peut y participer par ces trois vérités-là. Appliquer le sang, témoigner et ne pas avoir ma vie comme une priorité, mais lui comme priorité. C'est ce qu'il est en train de dire par la dernière expression. Je vous lis un verset qui revient avec cette même expression sur l'importance de la vie. C'est ce verset-là que je lisais dernièrement et que j'avais une méditation à apporter sur ces versets à la victoire de l'amour. Ces paroles de Jésus me sont revenues. « Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Ici, détester sa vie, ce n'est pas l'idée que tu te flagelles. Ce n'est pas l'idée que tu te fais des marques, que tu te fous de tu ne t'habilles pas comme il faut, que tu ne prends pas soin de ton corps. Ce n'est pas ça l'idée. On va en parler dans un instant. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur, là où je suis en train de travailler, en train d'être là où son maître est. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et voilà un clin d'œil pour la fête des Pères. Pour garder la victoire en tête, il faut garder l'œil sur notre vrai Père ultime. Qui est-ce que je veux plaire? Juste mon papa terrestre? Juste ceux qui me regardent? Ou est-ce que ce que je veux plaire, c'est surtout avoir, c'est l'approbation de mon papa dans les cieux? D'être honoré par lui. Il dit, celui qui va servir Christ, il ne parle pas ici de perfection, là. Il parle juste de le servir. Va être honoré par le Père. Il n'y a pas plus grand honneur que celui d'être accueilli et reconnu par le Père, nous dit Jésus. Et ça a été la motivation de Jésus tout au long de son parcours terrestre, de rendre gloire et de plaire à son Père. Et Jésus nous pointe dans la même direction de suivre cette motivation. Littéralement ici, haïr sa vie est mis en opposition en réalité avec le fait d'aimer. C'est d'établir ici une question de priorité claire. Le disciple met en premier les intérêts du royaume et non sa propre vie. C'est ça l'idée. Ce n'est pas de ne pas s'occuper de notre vie. C'est une manière d'exprimer cette priorisation et mettre un ordre. Ils donnèrent tous pour le Christ. Réputation, statut, possession et même leur vie. Préférant mourir plutôt que le déshonorer Dieu, leur sauveur, et déshonorer son nom. Quelle vie compte le plus pour nous? La vie présente ou celle à venir qui sera éternelle, déterminante, celui sur lequel mon statut détermine cette vie après la mort, le statut devant Dieu. Les gens investissent dans cette vie généralement avec la perspective que c'est là leur meilleure vie et y mettent tout leur cœur. Alors, autant en profiter au maximum, n'est-ce pas? Alors que notre meilleure vie, Jésus nous dit, est celle après cette vie terrestre, après le monde temporaire dans lequel on vit. Bien que temporaire et fragile et aussi intimidante qu'elle puisse être. Il est bien placé pour en parler comme créateur, ayant lui-même vaincu la mort. Cette graine, dans le fond, qui est morte et qui s'est relevée et a produit beaucoup de fruits dans les versets qui suivent ce verset de l'Évangile de Jean. Voilà, à mon sens, en ce jour de la fête des Pères, une leçon incontournable à retenir et réfléchir pour avoir un impact durable dans la vie des gens. Qui est celui que je veux honorer? Avec ces trois vérités à garder en tête, et je les répéterai tantôt dans notre conclusion brièvement. Mais je veux souligner ici, évidemment, cet impératif de se réjouir. Évidemment, il ne veut pas qu'on se réjouisse du mal qu'il va avoir sur terre, parce qu'en même temps qu'il dit « réjouissez-vous de cette vérité-là », il annonce le malheur sur terre de Satan qui est livré en bas, et que là, ça va être le malheur, parce qu'il vient en colère. Il est en furie, il est paniqué, il y a peu de temps. Et il ne fait rien selon les règles, il n'y a pas de quartier. Ce n'est pas une guerre avec les règles et les conventions de Genève. Non, merci. Il ne suit pas les conventions de Genève. Il s'en fout bien raide des règles de la guerre. Les coups en dessous de la ceinture, il n'y a pas de règles pour lui. Il n'y a pas d'heure pour les bombardements. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de sabbat. Il n'y a rien. Il n'y a pas de couloir humanitaire avec lui, les amis. Là. Il n'y en a pas de pitié. Il est en colère. Et il y a peu de temps. Paniqué. Et donc, d'un côté, cette joie... Et c'est aussi proportionnel à la panique que ça devrait causer à la terre. Elle qui n'a pas pris le choix de suivre. Et le diable va donc ici intensifier son recrutement, son attaque, espérant toujours réussir sa lutte finale contre Dieu. Et tenter de revirer la situation. C'est la panique. Et un auteur a bien résumé une citation que je trouvais bien dans la Bible, Vie Nouvelle. Il dit ceci. Nous vivons dans les derniers jours. On ne sait pas si ces derniers jours sont dans 10 ans, sont dans 20 ans. Le retour de Christ est dans la prochaine génération. Je ne sais pas, mais il y a une intensification. Nous vivons dans les derniers jours et son action devient plus intense. Même si le diable est très puissant, comme nous pouvons le constater d'après l'état actuel du monde qu'on regarde, il reste sous le contrôle de Dieu. Il reste... sous le contrôle de Dieu. On le dit tous ensemble. Il reste sous le contrôle de Dieu. OK? C'est important, ça. Dieu reste souverain en contrôle. Et ce qu'il a comme autorité lui est prêté pour un temps. Ne l'oublions pas. Il reste sous le contrôle de Dieu. Si Dieu lui permet d'accomplir le mal et d'induire en tentation, c'est notamment pour séparer les vrais des faux disciples de Christ. Et de mettre à l'épreuve la terre, leur donner une dernière chance avant son retour et de clore l'histoire. Maintenant, la dernière section. On a vu donc la femme, on a vu le dragon, c'est Satan acharné, on a vu le fils qui finalement il s'est attaqué, il n'a pas réussi. La guerre dans les cieux et finalement qu'il est chassé du ciel. Et là, ce chant joyeux, je dirais même ce chant évangélique de la victoire et en même temps le malheur prononcé sur terre. Regardons la deuxième moitié de la tribulation. Qu'est-ce qui se passe par ce résumé dans les versets 13 à 18? Quand le dragon se vit précipité sur terre, il se lança à la poursuite de la femme. On parle ici d'Israël, on l'a déjà mentionné dans l'autre sermon, qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Fort intéressant. C'est quoi ça, cette idée-là des deux ailes du grand aigle? On va y revenir d'un instant. Il y a une image ici de l'Ancien Testament. Pour qu'elle s'envole au désert, donc d'un endroit, un lieu où il serait réservé pour y être nourri, loin du serpent. Donc, on comprend que le dragon ici, c'est le serpent. On en a parlé au verset 9, où on a décrit différents noms, différents angles du mal. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et donc, on mentionne cette période d'être nourri dans les versets précédents, au verset 6, où ce qu'on mentionne qu'il les a nourris, qu'il va les nourrir pendant 1260 jours. Et c'est là que c'est quand on voit, il retourne en arrière, il parle de cette même période, et on comprend donc que le 1260 jours, c'est un synonyme pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est pas notre interprétation ici, là. On fait allusion à la même chose, mais de deux différentes manières. Et ce qu'il est en train de dire, c'est 3 ans et demi ici. On comprend très bien. 42 mois aussi est un autre terme utilisé dans le chapitre suivant et dans le chapitre précédent. Une période de 3 ans et demi. Et là, on comprend que pendant la deuxième moitié de cette période de tentation de la terre, donc d'épreuve, c'est le même mot d'être mis à l'épreuve, d'être dans la tribulation, bien, il y aura un moment où un groupe d'Israël sera protégé dans un lieu écarté, nourri, pris soin, amené avec des ailes que Dieu donne à un endroit de protection de Dieu, où ce qu'il prend soin d'elle, d'Israël. Mais est-ce que ça s'arrête là? Non. On lit ici, « Alors le serpent vomit comme un fleuve. » Ça ne veut pas dire qu'il a vomi un fleuve. On voit ici un langage, hein? Comme. Ce n'est pas un vrai fleuve nécessairement. Comme un fleuve d'eau derrière la femme pour y faire emporter par les flots. Donc, il y a une attaque, il est derrière, il y a quelque chose qui est envoyé pour l'attaquer. Mais la terre, et là, il y a une intervention divine, la terre vint au secours de la femme. Et le mot ici, secours, est un mot généralement utilisé strictement pour un secours qui vient de l'Éternel. Et on va se rappeler ici du secours que Dieu a donné à travers un jugement à Moïse, lorsqu'il y a eu la rébellion de Corée, c'est dans Nombre, chapitre 16, si je ne me trompe pas, où ce que Dieu a ouvert la terre, il y en a qui se rappellent de cette histoire-là, il les a avalés. Et ils sont descendus dans le séjour des morts, littéralement. Wow! Dieu secoue en ouvrant la terre. Ce n'est pas une image donc inconnue, on l'a vu dans l'Ancien Testament, cette intervention de Dieu qui peut ouvrir la terre. Et donc, on voit ici, peu importe ce que c'est, il y a une intervention de Dieu de secours qui est offerte à la femme, et la terre s'ouvrit et engloutit le fleuve vomi par le dragon. Fait que ce que Satan va réussir à faire pour attaquer, Dieu va réussir à protéger miraculeusement par une intervention divine de sa puissance pour l'annuler. Et ce qu'on doit retenir ici, c'est la protection de Dieu. Okay? La protection de Dieu. Malgré un acharnement, cet acharnement-là, Dieu la contrôle et dit, ce groupe-là, tu ne les toucheras pas. Je les protège. Mais ça ne s'arrête pas là. Verset 17. Dans sa fureur, dans sa colère contre la femme, le dragon portera le combat contre le reste de sa descendance. Donc, il y a une autre partie de sa descendance qui, eux, ne pourront pas s'enfuir. Donc, difficile, c'est qui l'autre groupe? Puis, il y a un des deux, c'est-tu les 144 000 ou c'est l'autre groupe qui est les 144 000? On n'a pas ce détail-là. On comprend que d'autres descendants israélites qui sont aussi restés fidèles, qui vont être persécutés, eux autres. Pourquoi? Où ils sont exactement? On ne connaît pas le détail, mais on comprend qu'il y a un groupe qui est protégé. Pourquoi l'autre groupe n'est pas protégé? C'est un peu pas juste. On n'a pas tous les détails. Mais notre papa nous donne une partie des informations, puis il nous rassure en même temps qu'il protège, il sait ce qu'il fait, il est au contrôle. Il intervient. Il y a un mandat, vous savez, c'est pas juste de protéger ses brebis, c'est aussi qu'il soit utilisé puissamment pour sauver les gens dans cette tribulation-là. Fait qu'il les isole pas toutes, il y en a qui restent, qui vont avoir un travail de continuité et de vivre la persécution. Et seul Dieu comprend le pourquoi, mais il a un agenda, on le sait, le salut des âmes. Donc, il n'y a rien de tout ça qui est gaspillé. Et donc, il porte son combat contre le reste de sa descendance. C'est qui ces gens-là? Regardez la description. Ceux qui observent les commandements de Dieu. C'est ceux-là, le reste. Et gardent le témoignage de Jésus. Puis, il se posa sur le sable de la mer. Je reviendrai avec cette phrase-là énigmatique à la fin du chapitre. Je vous rappelle ici ces deux passages de l'Ancien Testament importants. Les ailes données à la femme font référence à une image de l'Ancien Testament où ce que Dieu a, avec ses ailes, protégé ses enfants. Regardez ce texte. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Il faudrait dire, comme un aigle porte et s'occupe de sa volée et protège, j'ai fait la même chose. Israël a été porté et avec des ailes protectrices de Dieu dans le passé. Et ça continue à un autre texte où ce qui fait une promesse dans Deutéronome 32. Il s'est montré pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sous ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun autre Dieu étranger. C'est le seul vrai Dieu. C'est lui et personne d'autre. On a essayé d'attribuer à des dieux étrangers, à un veau d'or, l'action qui avait été faite envers Israël de protection. Il dit non, il y avait juste lui. Il n'y avait pas d'autre Dieu à qui on pouvait attribuer. Trompez-vous pas, là. Il y en a juste un qui pouvait faire une affaire de même. Le Dieu créateur. Et qui s'occupe de la rédemption, c'est-à-dire du rachat de son peuple. Donc, cette image-là des ailes qui sont données, c'est pour la protection et permettre d'aller vers un lieu de protection. Je vous lis cette citation de M. Ryrie encore. Satan, qui peut lui aussi faire des miracles, et souvent plus des apparences de miracles, lancera son attaque sur une inondation, comme une inondation, apparemment, afin d'essayer de noyer les gens hors de leur refuge reculé. Dieu, à son tour, provoquera quelque chose pour ouvrir la terre. Un tremblement de terre, on ne le sait pas, afin de consommer l'eau du déluge et aussi sauver les personnes persécutées. Lorsqu'il ne parvient pas à conquérir et à détruire ceux qui ont fui vers le désert, Satan se tourne pour attaquer contre le reste de sa descendance. Et cette descendance-là nous est décrite et on va méditer sur ce qu'il nous instruit sur leur description dans quelques instants. Je vous résume notre chapitre, OK? On pourrait le résumer de cette, résumer de cette façon-ci, et j'aime faire le résumé parfois avec le mot « grand », parce que le mot « grand », « méga », est utilisé en grec dans le livre de l'Apocalypse plus que tout autre livre. Et des fois, il y a des manières de le faire intéressant, et on pourrait le résumer de cette façon-là, de chapitre. Il y avait un grand dragon rouge qui veut faire la guerre, tout au long du chapitre, mais particulièrement dans la première partie qu'il nous a mentionnée. Et tout à coup, une grande voix, parce que pour une annonce comme ça, il faut une grande voix, une méga voix, annonce une bonne nouvelle de la victoire de Christ. Une grande fureur, suite à cela, du diable, en résulte sur la terre, parce qu'il est chassé suite à cette victoire de l'Évangile. Mais deux grandes ailes de l'aigle sont données à la femme pour s'enfuir du serpent, la protection de Dieu. Une manière simple, un peu pédagogique, avec le langage du texte, pour résumer le message du chapitre. Il y a protection malgré l'attaque. Il y a victoire par l'Évangile malgré la guerre. Et il ne faut pas se laisser intimider par sa grande fureur de l'ennemi. Je termine ce matin en prenant 5, 6, 7 minutes. Je voulais me donner le temps de réfléchir avec vous en terminant. La défaite du diable, premièrement, je vous rappelle cette vérité, l'accusation du diable qui accuse les frères est finale. Dieu est le seul vainqueur. Ainsi, je vous rappelle ces paroles importantes dans Romains chapitre 8, et on est dans une série avec le pasteur Benoît, et je vous rappelle ces premiers versets du chapitre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Et il faut le répéter. C'est une vérité évangélique qu'on ne fait pas juste dire une fois, mais qu'il faut se rappeler parce qu'on est des êtres oublieux. Ne nous laissons pas intimider. Ne nous laissons pas abattre des accusations et ne nous laissons pas décourager de nos propres échecs. Ne les grossissons pas outre mesure pour se flatter le nombril et se donner de l'orgueil caché comme attention. Non. Valorisons ce que lui a fait. Valorisons sa victoire. Valorisons la condamnation qui a été effacée et le nouveau statut qui nous a été revêtu sans aucun mérite de notre part. Et donc, je n'ai pas à me protéger. Il n'y a aucun mérite, de toute façon, que je vais pouvoir remettre de l'avant de moi pour me défendre, à moins que l'intercesseur, le défenseur, vienne à ma suite. Il dit, attends un petit peu. Je sais que j'ai l'apparence juste d'un petit agneau. Je n'ai pas de l'air très crédible et très fort. Mais j'aimerais vous dire, il y a un sens d'une petite bête, bien méprisable, mais parfaite, qui est venue laver cet homme, qui est venue laver cette petite fille, qui est venue laver ce grand-père et cette grand-mère. Va-t'en avec tes accusations. C'est fini. Amen. Et il faut s'en rappeler. Deuxièmement, tout cela nous rappelle l'importance que c'est par le sang de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache que la victoire est à notre portée. C'est pourquoi nous nous réjouissons. La valeur inestimable de ce sacrifice produit un état de reconnaissance perpétuelle dans nos cœurs, une fierté de notre Sauveur et une vie, à cause de cela, dévouée. Vous comprenez? C'est pour ça qu'après ça, les témoins, à cause qu'ils ont la valeur du sang, bien qu'ils rendent témoignage. C'est pour ça que leur vie n'est pas aussi importante que la vie qu'ils ont pour toujours avec celui qui a donné du sens à leur vie. Leur vie était perdue. La vie sans Christ est perdue. Alors tout à coup, j'ai la vie en Christ, bien ma vie n'est qu'à lui. Et elle prend un sens seulement là. Et tout à coup, c'est là qu'elle n'est pas importante parce que j'ai une vie éternelle et c'est le mandat de ma vie pour le Père céleste qui devient important de lui plaire. Et donc, ici, une vérité importante. Et bien, j'aurais une autre citation, mais je vais laisser faire. Je veux vraiment nous arrêter à prochain élément. Puis le troisième élément sur lequel je veux qu'on médite particulièrement ce matin. On en a déjà parlé déjà. Ceux qui rendent témoignage se démarquent par la manière de vivre, on nous dit au verset 17. On a déjà parlé de rendre témoignage. Au chapitre 11, vous rappelez, ces témoins, ces deux témoins. On a parlé donc de l'important de rendre témoignage. Et là, ici, je m'en vais dans une autre dimension un peu plus creux, un peu plus profond sur ce sens d'être celui qui rend témoignage, en regardant les caractéristiques. On dit qu'ils observent les commandements de Dieu. Voilà ce qui décrit une personne qui rend témoignage et qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Spécifie un peu plus loin le livre de l'Apocalypse, Jean, dans le chapitre 22. Rappelez-vous comment les deux témoins et le prophète au chapitre 11 ont rendu témoignage spécifiquement par leur parole de témoignage qui était un témoignage spécifiquement de Christ. Et c'est répété ici, ce n'est pas un témoignage de n'importe quoi, ce n'est pas un témoignage de l'Église, ce n'est pas un témoignage des saints de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, ce n'est pas les témoignages des saints à travers les siècles, ce que l'Église a fait, de vanter ce qu'on a réussi à faire dans notre ville, de mettre de l'avant nos grands représentants. C'est le témoignage de Jésus. C'est pour ça comment qu'on va grandir, partager, servir, c'est tout lié à fait de partager quoi? Grandir en Jésus-Christ. Hein? Qui on va partager? Jésus-Christ. Qui on va servir? Jésus-Christ et son Église. Hein? Tout est lié à qui on rend témoignage. Et de là va venir aussi la force qui va avec. C'est Jésus, le centre du témoignage. Et donc, quand je partage ma foi, c'est Jésus qui doit sortir. C'est son œuvre, c'est sa grandeur, c'est son amour, c'est sa force, c'est son miracle, c'est ses paroles, c'est son accomplissement, c'est tout ce que lui fait qu'on vante et qui rend témoignage et qui fait une différence dans la vie des gens. Voilà la marque de tout chrétien, authentique. Ça fait réfléchir cette notion de la persévérance dans l'obéissance qui caractérise le témoin de Jésus. Le verbe « garder » est un verbe qu'aime particulièrement Jean. Et quand on lit dans le Nouveau Testament, on voit que certains auteurs ont des mots préférés. Et Jean, un de ses mots préférés, qu'il utilise plus que toutes les autres, c'est vraiment « garder ». Et c'est le mot qu'on va traduire souvent par « obéir ». Si tu gardes ses commandements, c'est que tu observes, tu obéis à ses commandements, n'est-ce pas? Mais je vous rappelle un verset important avec lequel je veux qu'on termine ce matin. C'est dans 1 Jean. Et je vous relis un verset qu'on connaît bien, mais en prenant le temps de souligner quelques nuances pour ne pas tomber dans une erreur évangélique qu'on fait souvent. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Et les mots que j'ai soulignés, ça vous lance le signal, OK? Celui qui prétend avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. OK. Et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeure en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. La manière typique qu'on fait comme évangélique de lire ce verset-là, généralement, est axée habituellement sur la productivité de l'obéissance. Et là, on lit ça, puis on se dit, « Ouf, ouais, garder ses commandements, je désobéis souvent. Puis là, si je ne garde pas les commandements, je suis un menteur. OK, c'est dur de me vanter que je garde les commandements, fait que j'ai l'air d'être pris dans un échec. Hein? » Puis là, on les reconnaît, ben, ceux qui gardent sa parole, c'est vraiment, ils sont parfaits en lui, ouais, OK. Puis là, on lit ça, puis tu peux comme, être un peu démotivé. Parce qu'il y a une erreur commune qu'on fait dans la lecture de ce verset-là, c'est qu'on voit le côté performance, productivité. Et là, quand on se garde à ça, on se dit, ouais. Et parce que ça cadre aussi avec notre société très productive. Hein? C'est un employé qui n'écoute pas puis il n'obéit pas, il n'est pas productif, ben qu'est-ce qu'il fait? Il prend la porte. Ou si tu es syndicalisé, ben là, tu essaies de trouver un endroit où ça va me déranger ou l'envoyer d'un département à quelqu'un d'autre, tu sais. Débarrasser du problème. Mais remarquez bien ici que le texte ne met pas l'accent sur la productivité en réalité. Et c'est pour ça que j'ai souligné certains mots pour nous faire revoir le même texte, mais avec certains angles qui nous échappent souvent et qui fait toute la différence sur comment est possible d'être obéissant. D'où elle est produit, cette obéissance? Parce que c'est un sous-produit, l'obéissance. Regardez bien. Et c'est là que j'ai mis le prochain petit paragraphe qui termine ce matin. L'accent de ce texte n'est pas sur la productivité ou l'obéissance. En fait, ces choses ne sont que les sous-produits d'une relation authentique avec Dieu. Les expressions utilisées dans le texte démontrent clairement « connu », « connaître », c'est relationnel. « En lui », c'est relationnel. Et demeure en Christ. Rendre témoignage est seulement possible si vous avez, je l'ai écrit deux fois, une relation intime avec Dieu. L'accent du texte est mis sur cette relation de connaître, d'être en lui, de demeurer en lui. Et voilà ce que le témoin lui permet de rendre témoignage. Vous voyez? Le témoin est obéissant et observe parce qu'il est branché, qu'il connaît, qu'il est avec, qu'il demeure. Et tout à coup, effectivement, il peut y avoir une productivité. Mais ce n'est pas parce qu'il est meilleur que les autres. Il est juste plus branché, ce croyant, cette croyante. Relationnellement, connecté à lui. Et lorsqu'il est connecté, le fruit se porte naturellement. Tu n'as pas besoin de le forcer. Tu n'as pas besoin de faire une checklist de productivité. Tu n'as pas besoin de le vérifier. C'est juste le sous-produit. Et voilà la dimension que je crois qu'on doit rester avec ce matin. Rendre témoignage, c'est un sous-produit d'être branché relationnellement avec celui qui le fait en moi. Oui? Et ce qui démarque ces hommes et ces femmes, leur obéissance, leur observance, leur persévérance à témoigner de Christ, c'est le fait qu'ils sont branchés en lui. Et ça paraît par le fait que leur vie n'est pas le point principal, mais la vie de Christ en eux. Amen. Et voilà ce à quoi je veux vous inviter à prier avec moi ce matin. J'ai invité l'équipe à s'approcher. On va prier et terminer sur cette réflexion. Et ce matin, si le Seigneur vous parle sur une dimension particulière de la victoire en lui, j'aimerais vous inviter à, alors que je prie, je ne veux pas interrompre votre prière, je vous invite à juste prier dans votre cœur et s'il n'y a pas une prière en particulier, de permettre de vous accompagner dans la prière et Dieu vous montrera s'il y a quelque chose qu'il veut que vous apportez devant lui dans la prière. Peut-être que ce n'est pas là présentement, mais à mesure qu'on prie, il y a des choses que Dieu va amener. Et juste vous rester sensible présentement, d'oublier ce qu'il y a à midi, d'oublier ce qui vous attend, ce qui vous préoccupe ce soir, le souper de famille. Mettez tout ça de côté, Seigneur, je veux juste te parler puis me brancher sur toi présentement. Là. Et on va y parler. Seigneur, on veut juste te parler ce matin et juste échanger avec toi, te dire, Seigneur, combien on veut juste te dire ce matin, premièrement, merci. Seigneur, merci de ce que tu as fait à notre égard. Merci d'être venu vers nous alors que nous, on n'allait pas vers toi. Merci d'être si patient qu'encore aujourd'hui, tu n'es pas revenu parce que tu espères encore donner du temps à chaque terrien de venir à toi. Chaque humain, parce que tu nous aimes, tu aimes ta créature, puis tu ne l'as pas créée pour la juger. Mais devant le rejet de ta créature, tu es patient, désirant et donner encore une journée de plus pour revenir à toi. Une journée de plus pour recevoir le témoignage de Jésus. Et nous donner à nous qui avons compris ce message une journée de plus pour avoir l'occasion de te servir sur terre, de rendre témoignage de toi, parce que tu mérites, Seigneur, tout notre dévouement. Et Seigneur, devant cet impératif de la joie, je réalise que c'est difficile pour nous d'être dans la joie continuellement. Parce que chaque jour, on est mis devant la consommation, on est mis devant des épreuves, on est mis devant des inquiétudes, on est mis devant des relations des fois brisées ou conflictuelles qui prennent beaucoup de notre temps et qui nous préoccupent. Devant plein de choses autour de nous sur lesquelles on n'a aucun contrôle, devant des guerres qui nous créent de la colère, devant des situations qu'on vit dans la vie conjugale ou face à nos enfants et sur lesquelles on se sent complètement démunis, sans capacité d'intervenir et que même quand on essaye de faire quelque chose, c'est pire encore, Seigneur. Ça nous décourage parfois. Et là, tout à coup, devant « Soyez joyeux », Seigneur, j'y arrive pas. C'est difficile. Et Seigneur, ce matin, tu nous rappelles ces vérités pour nous ramener à l'essentiel de l'Évangile. Nous ramener à ce qui porte notre cœur à la reconnaissance. Ce qui nous aide à arrêter à regarder à droite et à gauche et d'être intimidés, mais qui nous garde les yeux en haut sur toi, au lieu de regarder autour de nous sur terre. Et ça met toutes sortes d'états d'esprit en dedans de nous là, qui sont difficiles et qui nous enlèvent le repos, qui nous enlèvent la joie, qui nous enlèvent la paix. Seigneur, est-ce que tu peux nous redonner présentement dans la prière, cette paix. Se rebrancher sur toi. Là. Retrouver mon regard sur toi. Retrouver ma mission pourquoi je suis là. De retrouver, dans le fond, ce qui a fait un jour, j'ai fait la paix avec toi. De retrouver, Seigneur, tout à coup, quand j'ai compris, c'était quoi ma raison d'être, puis quelle joie ça m'a donné. On dirait que tout après ça, le reste n'était pas important, parce que j'avais compris d'où je venais, puis où j'allais, puis pourquoi j'étais là présentement. Seigneur, est-ce que tu peux nous rappeler ces émotions de paix et de joie qu'on avait au moment de ces prises de conscience-là? Qu'est-ce qui fait que je le perds, Seigneur, ce matin? C'est quoi qui me l'enlève? Et que l'ennemi, parfois, réussit à avoir une prise pour saper ma joie, pour me décourager. C'est quoi, Seigneur? Est-ce que je peux te le donner, Seigneur, cette chose-là qui me pèse, qui m'enfarge régulièrement? Ce rocher sur mon chemin que avec ton aide, j'aimerais ça prendre et le gorocher dans le ravin là, pour arrêter de m'enfarger dedans. Mais je n'y arrive pas à le lever tout seul. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu m'aider, Seigneur, à le prendre, cette roche-là, que je m'enfarge dedans, puis de le gorocher sur le côté, que je puisse continuer à avancer avec toi, puis retrouver mon aisance en toi, retrouver ma fierté de toi, retrouver ma joie que j'ai en toi, retrouver la paix que j'ai quand je sais pourquoi je suis là, puis que là, je ne suis plus découragé par l'affaire au travail qui me pesait, puis par la relation là, qui me décourageait, puis là, tout à coup, tout retrouve sa place. J'ai besoin de tout ça ce matin, Seigneur. Parce que je veux pouvoir vivre cet impératif de la joie. En dépit des difficultés, en dépit de ce que je regarde autour de moi. Mais de juste, oui, c'est vrai, en regardant à droite, c'est difficile, mais je vais remettre les yeux en avant sur toi. Puis me brancher sur toi. Puis à pouvoir vivre la vie que tu as pour moi. Veux-tu m'aider, Seigneur, ce matin? J'ai besoin de ton aide. Peut-être êtes-vous ce matin devant le constat que vous n'avez jamais encore donné votre vie à Jésus. Vous n'avez pas encore été assez écœuré de cette vie pour donner votre vie à Jésus. Et je prie pour vous ce matin. Que le Seigneur puisse vous montrer la profondeur de son amour. La profondeur de cette vérité de l'Évangile. Et la profondeur de la crainte que devraient nous inspirer toutes ces vérités. Pour nous amener respectueusement à genoux devant lui. Ô Seigneur, touche les cœurs de ceux qui luttent présentement, ici dans cette salle, à la maison présentement, en différé, et qui luttent à abandonner le contrôle de ma vie. Encore en train de me battre pour tenir, puis de vouloir faire de cette vie ma meilleure vie, alors que c'est voué à l'échec, c'est voué à l'insatisfaction. Ta parole est claire, Seigneur. Touche ce cœur en combat et qu'il puisse, en toute simplicité, tomber à genoux devant toi, comme Pierre le fait un jour devant le miracle de la multiplication de cette pêche miraculeuse et qui a réalisé, waouh, qui est celui qui est devant moi? C'est le Messie parfait et qui a reconnu son péché, qui est tombé à genoux devant lui et qui a dit, Seigneur, je ne mérite pas ta présence, je suis un pécheur. Pardonne-moi. Dans le nom de Jésus. Amen.